Merci de me donner la parole. Je voudrais vraiment remercier le représentant de l'Union européenne pour son exposé fort perspicace sur l'excellent travail que vous faites à cet égard. Je me suis félicité d'entendre vers la fin de votre intervention une mention du travail que vous faites avec des États qui ne veulent pas recueillir des données ventilées. Comme on le dit toujours, si l'on ne compte pas les problèmes, alors on ne compte pas. Est-ce que vous utilisez également des sources tierces en dehors des ONG qui ont également des données assez exactes, même si les États à l'intérieur desquels elles fonctionnent ne considèrent pas utile de collecter des données ventilées sur la notion de race. Il y a des organisations qui font un travail fort utile sur le décompte, par exemple, des personnes incarcérées appartenant à différents groupes ethniques. Est-ce que vous utilisez également ces données, particulièrement venant d'États qui ne sont pas convaincus de la valeur de cette collecte de données? Parce que nous avons beaucoup travaillé ces dernières années là-dessus, ici dans cette salle et avec d'autres collègues, pour essayer de voir de quelle façon l'Union européenne avance dans le sens de l'adoption de lois visant à lutter contre la discrimination raciale. Nous voudrions aussi que ces bonnes pratiques sur le plan juridique soient mises à profit. Et donc ici, aussi bien que dans le cadre du comité spécial sur l'élaboration de la Convention contre la discrimination raciale, cette expérience est utile parce qu'à mesure que vous avancez dans ce travail, vous identifiez des lacunes dans les lois en vigueur et que vous utilisez le cadre plus général de la Convention contre la discrimination raciale pour élaborer ces lois. En même temps, il est vrai que tous les États ne le font pas. Donc, à mesure que vous faites ce travail pour formuler des lois de façon exacte et les appliquer de façon exacte, c'est justement le genre d'avancée dont nous avons besoin pour combler les lacunes qui existent encore dans le travail, en particulier sur le racisme systémique au niveau des entreprises et des États, parce que reconnaissons-le, souvent, ce ne sont pas les États qui sont le premier responsable du racisme systémique. Ce sont plus souvent les entreprises privées qui font cela, principalement parce que on vit là où l'on travaille et là où l'on va à l'école, et pas seulement dans les cas où l'on se trouve en interaction avec des fonctionnaires de l'État. Merci également à Monsieur Pastor Murillo pour ces informations sur le forum, cette nouvelle instance dont nous examinerons les documents la semaine prochaine. Après un rapide coup d'œil, du point de vue de l'Afrique du Sud, nous travaillons là-dessus également. Vous avez fait des commentaires sur une question qui est celle des réparations. Cette question est toujours difficile parce que vous le savez peut-être, la semaine dernière, lors de l'adoption de la résolution, le groupe africain proposait un texte sur le racisme, de la rhétorique à la réalité. Il y avait aussi un paragraphe dans lequel nous demandions que les États trouvent les moyens, nous encourageons les États à trouver en fait les moyens de traiter cette question des réparations suite aux torts causés dans le passé, mais nous nous sommes heurtés à une situation décourageante lorsque une ex-puissance coloniale a dit de manière directe ses raisons pour s'opposer à ce texte en disant, je cite, nous ne sommes pas d'accord avec l'affirmation contenue dans cette résolution, disant que les États ont l'obligation de payer des réparations pour le commerce des esclaves et le colonialisme qui a causé de grandes souffrances au peuple, mais qui à ce moment-là n'étaient pas des violations du droit international. De plus, ces revendications nous détournent du travail important à faire pour lutter contre les formes contemporaines du racisme et notamment l'inégalité qui se ressent dans toutes les régions. Fin de citation. Donc voilà la grande question à laquelle nous sommes confrontés. nous avons du mal à insérer ces choses dans les documents parce qu'il y a des personnes qui nous disent qu'aucune réparation n'est due parce que ces choses qui ont été commises dans le passé n'étaient pas illégales au moment où elles ont été commises. Et c'est le problème auquel nous nous heurtons, cette question des droits collectifs des groupes, comme on le sait dans ce conseil, on dit toujours que les droits humains sont des droits individuels. Il y a une autre puissance coloniale qui dit qu'elle ne reconnaissait pas ces groupes, qu'il s'agissait d'individus, on l'a dit clairement. Et ils ont estimé qu'ils ne voyaient pas pourquoi on ferait une exception particulière pour certains groupes, en l'occurrence les Africains, personnes d'ascendance africaine, pour un traitement spécial. Et là, nous parlons donc de puissance coloniale. Donc, ce sont des questions auxquelles il va falloir nous atteler. Ça n'est pas nouveau. Il n'a jamais été facile d'arriver à un consensus sur ce genre de document si les deux principales puissances sont justement opposées, particulièrement.